Chapitre 32. Francesca sent ses jambes trembler lorsqu'elle monte les escaliers. Elle tient son téléphone déchargé dans une main et s'agrippe à la rampe de l'autre. Les mots de l'homme de la NOA l'informant d'une menace grave et imminente contre elle résonnent dans sa tête. Elle arrive sur le palier, écarte quelques rangées du rideau de perles, passe à travers et entre dans la grande chambre de sa sœur. Un chargeur est posé sur la prise murale à côté de la table de chevet. Elle s'en saisit et branche son portable. Les perles en plastique ambré du rideau s'entrechoquent derrière elle. Dans le tiroir ouvert de la table de chevet se trouve un petit masseur rose, une plaquette de comprimés contre les céphalées et une gouttière occlusale. Sa sœur cadette se rend tous les vendredis chez son petit ami, sur une île du lac Mélaren. Un week-end sur deux, il a ses enfants d'un précédent mariage, et elle ne peut pas emmener son chien Oki car le plus jeune a de graves problèmes d'allergie. Francesca s'installe généralement dans la maison de sa sœur afin de s'occuper du chien. Elle le promène, le laisse sortir par la porte arrière, se prépare quelque chose de simple à manger, s'assied sur le canapé avec un livre et un verre de vin et dort dans la chambre d'amis. Son mari est en voyage d'affaires à Dallas, mais lorsqu'il est à la maison, il se contente de regarder la télé, de se coucher tôt et de se lever à 6h le samedi matin pour écouter son émission favorite, Nature Morgan, sur la radio de la cuisine. Elle se sent agréablement étrangère dans la maison d'architecte des années 1970 de sa sœur, tout en briques rouges et vert taillé. Les rideaux sont fermés devant la fenêtre. Elle pose son portable sur la table de chevet. L'écran est toujours noir. Elle a du mal à interpréter ce que le policier a essayé de lui dire. Une menace imminente? En tant que psychologue, Francesca est habituée aux menaces et n'est jamais vraiment effrayée ou inquiète. Elle travaille souvent avec des personnes traumatisées et sait comment elles fonctionnent. Mais avec Johnny, ça s'est tout de même mal passé, songe-t-elle. Elle va à la fenêtre, tire doucement le rideau et regarde les feuilles sombres sur le toit en tuiles de l'abri pour voiture. L'allée goudronnée et la boîte aux lettres font face à une rue étroite. Johnny Sylvan est un homme d'une trentaine d'années, traumatisé par les bombes et qui a fait une fixation sur elle. Elle repense à son visage maigre, à sa mâchoire et à son nez reconstruit, à sa prothèse oculaire qui la fixait avec intensité. Il ne comprenait pas que l'attention qu'il lui portait et dont elle se disait au départ flattée était soudain devenue intrusive et menaçante. Francesca n'a pas signalé son accès de colère lorsqu'il a cassé la chaise de son cabinet. Elle savait qu'il avait besoin d'une seconde chance. Elle a tout simplement confié la thérapie à un collègue masculin. Il lui a fallu quelques semaines pour se rendre compte que Johnny l'espionnait. Elle retourne à la table de chevet, essaie d'allumer son téléphone qui ne réagit toujours pas. Elle se dit qu'elle devrait peut-être monter dans sa voiture et se rendre au poste de police de Kungsholmen. Mais ce serait sans doute exagéré. Le chien est toujours dehors à l'arrière de la maison et la porte n'est pas verrouillée. Cette pensée accélère les battements de son cœur. Elle sort de la chambre et descend l'escalier en bois grinçant. Entre les lattes des marches, elle voit le couloir, le dressing, les toilettes des invités et la chambre d'amis où elle dort, et enfin la porte du vestiaire. C'est la partie la plus sombre de la maison. Elle arrive sur le parquet blond-roux, s'immobilise et tend l'oreille un instant. À gauche se trouve la cuisine avec ses carreaux bruns et ses détails en cuivre. Tout droit, on devine le salon à travers la vitre en verre martelée de la porte. L'interruption du message de la police a sans doute contribué à faire paraître les choses plus graves qu'elles ne sont en réalité. Dès que son portable sera rechargé, elle rappellera. Francesca ouvre la porte du salon et voit à travers la vitre les meubles courir comme des animaux maladroits sur le verre grossièrement taillé. Quelque chose la retient. Elle regarde la cheminée anguleuse en briques rouges, la télé, les étagères surchargées et le canapé en cuir marron. La police a arrêté Johnny Sylvan dans la rue devant chez elle. Il portait une ceinture explosive et affirmait avec le plus grand calme qu'elle et lui allaient mourir ensemble dans une étreinte. Il a été placé en soins psychiatriques en unité fermée, mais c'était il y a plus de 2 ans. Francesca entre dans le salon, sent un frisson la parcourir et se force à ne pas se retourner vers le couloir sombre. La porte qui donne sur la petite terrasse à l'arrière est équipée d'une chatière, mais elle pense que le chien est bien trop fier pour l'utiliser. C'est un épagneul japonais de 2 ans, plus petit qu'un chat, mais qui reste malgré tout un chien. Il s'appelle Oki, ce qui signifie « grand » en japonais. Francesca ouvre la porte et regarde le jardin ombragé et touffu, les meubles écaillés, le quadrillage de mousse verte entre les pavés, l'herbe, les arbres et les buissons. « Oki ?» appelle-t-elle doucement. Elle sort et sent le froid des tomates sous ses pieds nus, passe devant la grille ornée de boules rouges et regarde une assiette en métal sur laquelle est posée une vieille spirale anti-moustique. Des clôtures basses, des murs et des haies délimitent les terrains voisins. Personne n'est visible, mais une odeur de charbon de bois brûlé est portée par le vent. Elle sort dans l'herbe humide, lève les yeux et distingue les rochers abrupts du parc, ses arbres et ses buissons denses. Elle passe devant le bouleau noueux et les groseilliers, puis se tourne vers la maison et observe la porte ouverte, les rideaux de fenêtre du salon, la cuisine sombre et les plantes en pot sur le rebord de la fenêtre. Francesca sourit en repensant soudain à la brève conversation qu'elle a eue avec Erland jeudi dernier. Ils étaient encore à table après le dîner lorsqu'elle lui a dit qu'elle était en manque de sexe, que c'était son éducation chrétienne qui l'avait poussée à s'en détacher. Elle ne se souvient pas l'avoir vu aussi heureux. Ses joues sont devenues écarlates, et il a essayé de répondre de manière adulte que ça lui manquait aussi, qu'il aimerait essayer à nouveau, à son rythme à elle. Son oreille est attirée par un bruissement du côté du bain nordique en bois goudronné que sa sœur tenait absolument à avoir, mais qu'elle n'a utilisé que la première année. Francesca se retourne et écarte quelques branches avec sa main. Elle perçoit un battement sourd et rapide, puis les aboiements d'Oki qui arrivent en trottinant de la maison voisine. C'est de ce côté que vit un vieil homme qui a l'habitude de lui donner des boulettes de viande. Elle soupire, puis rentre avec le chien, verrouille la porte derrière eux et prend la clé avec elle. Oki la précède dans la cuisine, ses griffes claquent sur le parquet du couloir. Lorsqu'elle pénètre dans la cuisine, il se tient déjà près de sa gamelle et gémit. Mais doucement, car il sait qu'elle n'aime pas ça. Pas de boulettes de viande aujourd'hui ? Demande-t-elle en lâchant la clé sur un plateau posé sur le plan de travail. Oki court vers la porte de la cuisine donnant sur l'abri à voiture et la gratte avec sa patte. Qu'est-ce que tu fais ? Demande-t-elle en lui versant de la nourriture et de l'eau. C'est moi ta maîtresse maintenant. Jeannette en a assez de toi. Elle a attendu, mais tu ne grandis jamais. Le chien se retourne et saute vers sa gamelle. Francesca s'approche de la porte et vérifie la clenche. Elle est bien sûr verrouillée et sa voiture est garée si près du mur droit de l'abri qu'il est impossible de l'ouvrir. Un homme crie quelque part au loin. Elle revoit les parties inanimées du visage tendu de Johnny. Les gouttes de sueur qui tombaient sur la table, ses cheveux épais, coiffés en avant pour cacher son appareil auditif. Il lui avait raconté comment la première onde de choc de l'explosion avait éteint l'allumette qu'il tenait contre sa cigarette. Il disait que c'était lui, cette flamme, qui s'était finalement éteinte. Subitement, il avait cessé d'exister et s'était reposé dans les bras merveilleux de l'ange. Francesca se souvient de lui en train de gratter ses poignets poilus alors qu'il expliquait que l'ange l'avait déposé sur le sol parmi les épaves de voitures déchiquetées et les décombres. Mais il avait fait machine arrière. Il était revenu à la vie et à la terrible douleur. Francesca rencontre souvent des policiers traumatisés qui ont été blessés ou qui ont blessé quelqu'un. Ils sont devenus agressifs et ne se reconnaissent plus. Certains développent des addictions et des obsessions après avoir, par exemple, déterré les restes de corps d'enfants carbonisés. Elle entend soudain le bruit d'un moteur qui s'arrête brusquement derrière l'abri. Une voiture vient de se garer. Est-ce la police? Une première voiture de patrouille? Moins de 10 minutes se sont écoulées depuis leur appel. Elle se dépêche de traverser le couloir, passe devant les escaliers, le dressing, les toilettes et la chambre d'amis, puis ouvre la porte du vestiaire. Peut-être ont-ils déjà arrêté Johnny. Ils ont essayé de l'appeler, puis envoyé une voiture. Elle se dirige vers la petite vitre de la porte d'entrée, met sa main en visière pour mieux distinguer l'extérieur. Un vieux pick-up équipé d'un treuil a reculé dans l'allée. La portière gauche du véhicule est ouverte et l'air tremble au-dessus du moteur chaud. Le chemin qui mène à la porte d'entrée est masqué par d'épais buissons. Elle ne peut pas voir si le conducteur se dirige vers la maison. Elle fait un pas en arrière, saisit la longue clé dans la serrure et la tourne sans quitter la fenêtre des yeux. Le système de verrouillage s'enclenche et la barre glisse dans le cadre. Elle retire la clé, sursaute en la voyant tomber parmi les chaussures sur le tapis de l'entrée, recule de quelques pas et s'adosse au mur. La porte vibre lorsqu'un camion passe dans la rue en direction du centre-ville. Elle vient de se faire une belle frayeur. Le pick-up doit appartenir à un jardinier. Elle se retourne, jette un œil vers le couloir sombre et se demande combien de temps il lui faudrait pour obtenir de l'aide si elle montait en courant les escaliers, s'enfermait dans la chambre de sa sœur, déverrouillait son portable, se cachait sous le lit, entrait le code PUC et le mot de passe, ouvrait la liste des appels et recontactait la Enoa. Elle se dit que le téléphone est probablement suffisamment chargé maintenant, lorsqu'un bruit métallique retentit à l'intérieur de la maison. Elle s'arrête et retient son souffle. Les tiroirs de la cuisine s'ouvrent. Les couverts et les couteaux s'entrechoquent. Francesca se précipite dans le dressing et referme la porte derrière elle. Elle réalise qu'il est trop tard pour monter les escaliers grinçants et aller chercher son portable. D'une manière ou d'une autre, elle doit réussir à sortir de la maison.